Mais d'abord le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est ce qu'on appelle la douloureuse. La facture énergétique va grimper l'année prochaine. Elisabeth Borne doit annoncer cet après-midi les grandes lignes du bouclier tarifaire pour 2023. Oui, il sera prolongé, mais cette fois le gouvernement ne joue plus au quoi qu'il en coûte, plutôt au combien ça coûte. Et ce qui est sûr, Aurélien Fleureau, c'est que pour les Français, ça va coûter plus cher.
Oui, et Bruno Le Maire l'a encore rappelé hier. La hausse sera contenue, mais il y aura bien une hausse. Concrètement, si l'augmentation se situe autour de 15%, la dépense annuelle en électricité d'un ménage va grimper de 140 euros. À titre de comparaison, Bercy n'a de cesse de rappeler que ce serait 120 euros par mois, sans aucun bouclier tarifaire. Donc attendez-vous, à partir de janvier 2023, à une hausse mensuelle d'une douzaine d'euros pour l'électricité et d'environ 20 euros pour le gaz. Alors évidemment, il s'agit ici de montants moyens. Ce bouclier tarifaire sera moins protecteur pour ne pas peser uniquement sur le budget de l'État. Et puis, c'est aussi une manière d'inciter à la sobriété. Il sera malgré tout orienté vers les plus précaires. Il y aura toujours un chèque énergie dont les critères d'obtention devraient être élargis. Et enfin, il y a bien sûr les dépenses de carburant. Le coup de pouce à la pompe ne devrait pas être prolongé au-delà du 31 décembre. Pour être remplacé par ce fameux dispositif gros rouleur envisagé depuis plusieurs mois, en clair, aider uniquement ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller travailler.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
Et l'Union européenne, elle aussi, est en quête de solutions face à la flambée des prix. Les 27 ministres de l'énergie ont rendez-vous le 30 septembre à Bruxelles.
Plafonner les prix du gaz importé, taxer les géants du nucléaire, pénaliser les gros consommateurs en période de tension. Plusieurs idées sont sur la table. L'une déjà actée, la limitation du prix de l'électricité qui ne pourra plus dépasser les 4000 euros du mégawattheure.
Voilà, toutes ces idées, elles devraient être dans le discours. Tout à l'heure, d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, s'exprimera pour son discours sur l'état de l'Union. Question, ceci dit, comment produire cette électricité quand le gaz vient à manquer et que les centrales nucléaires sont encore pour la plupart à l'arrêt?
Eh bien, il reste la dernière option, la réouverture des centrales à charbon. Celle de Saint-Avold, qui devait définitivement fermer en mars dernier, a finalement repris du service sur demande du gouvernement. Sauvetage de dernière minute et pour quelques mois à peine. La correspondance de Mélina Facha en Alsace, reportage.
Au cœur de la centrale, des camions déchargent à nouveau des centaines de milliers de tonnes de charbon. Sylvain Krebs, responsable du parc, est un peu amer.
Tout le monde est content de revenir parce que ça fait de l'activité. Mais pour moi, on a déterré un cadavre. Là, les 210 000 tonnes que vous voyez derrière, ça va faire du CO2. On le sait, on va être obligé de le faire pour le bien de la nation, mais c'est vraiment parce qu'on nous le demande.
Presque tous les anciens salariés ont accepté de revenir avec une prime mensuelle pouvant aller jusqu'à 5 800 euros. Camille Jaffrelo, porte-parole de Gazelle Énergie, le propriétaire du site.
C'est totalement inédit, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on demande à une entreprise privée de réembaucher des salariés qu'on vient de licencier.
La production redémarrera début octobre sur demande de l'État et en théorie juste pour cet hiver, mais tout le monde a de sérieux doutes.
Qu'est-ce qui aura changé dans la situation? L'Ukraine et tout, vous croyez que ça va être réglé? À mon avis, on est parti pour 2 ans.
Ce qu'on a demandé, c'est d'avoir une vision claire pendant l'hiver, pour dire à nos salariés si oui ou non ils seront présents à la centrale l'hiver prochain.
Et ils espèrent surtout que les nouveaux projets de la centrale autour des énergies renouvelables ne seront pas retardés. Saint-Avold de Mélina Fachin, Europe 1.
Il est 8h05, 3700 hectares partis en fumée, 750 pompiers mobilisés. En Gironde, le feu ralentit mais continue de progresser.
Et 150 pompiers supplémentaires sont attendus aujourd'hui. Depuis lundi, 840 personnes ont dû être évacuées des communes de Somos et Sainte-Hélène dans le Médoc. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de cet incendie.
Direction Londres maintenant, certains ont veillé toute la nuit à Buckingham. Nouvelle journée d'hommage pour Elisabeth II.
La première dans la capitale, la reine est revenue d'Écosse hier. Stéphane Place, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe à Londres. Bonjour.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Alors ça y est, la reine est à la maison. Des milliers de Britanniques pourront se recueillir sur son cercueil dès aujourd'hui. Elle était très attendue dans la capitale.
Oui, d'ailleurs, Dimitri le signalait, mais de nombreux Britanniques ont effectivement passé la nuit devant Buckingham Palace, veillant en quelque sorte leur souveraine. Applaudis par la foule, le corbillard transportant le cercueil recouvert de l'étendard royal jaune, rouge et bleu du Royaume-Uni et d'une couronne de fleurs blanches a franchi les grilles du palais hier soir, smartphone en main, pour filmer ce moment historique. Ces deux quinquagénaires, Leslie et Vicky, disent leur émotion.
Très émouvant. J'ai pu lui dire au revoir dans ce dernier voyage. Elle est de retour chez elle et elle peut passer la nuit avec sa famille avant d'aller se reposer à Westminster. Je reviendrai à Londres lundi pour lui rendre un dernier hommage.
Je me sens à part, tellement chanceuse d'avoir aperçu le cercueil. Nous étions juste venus pour voir les fleurs. C'est très important parce que maintenant, elle est à la maison. C'est vraiment la fin du voyage.
Et ce matin, le cercueil est toujours dans la ballroom du palais de Buckingham, une grande pièce circulaire aux colonnes de marbre encadrant chacune des fenêtres monumentales.
Stéphane, on commente beaucoup la lourdeur, la précision du protocole entourant ces funérailles. Comment ça va se dérouler ce transfert du cercueil de la reine de Buckingham à Westminster ?
Alors écoutez, cet après-midi, le cercueil de la reine va quitter sa demeure officielle dans la capitale sur un affût de canon pour rejoindre le palais de Westminster où il sera exposé pendant 5 jours. Une procession qui sera saluée tout à l'heure par la cloche de Big Ben et des coups de canon à Hyde Park.
Merci beaucoup Stéphane Place, envoyé spécial d'Europe 1 à Londres. On note qu'il y a quand même 30 heures d'attente selon les autorités britanniques pour pouvoir saluer le cercueil de la reine.
Direction la Suède maintenant, plus que quelques heures avant les résultats définitifs des élections législatives.
Ça va se jouer à un siège, score très serré avec en tête l'alliance de la droite traditionnelle et des démocrates, parti d'extrême droite. Une formation longtemps diabolisée qui devrait cette fois dépasser les 20% de voix et devenir une force majeure dans la prochaine coalition. Un bouleversement politique dans un pays gouverné depuis 8 ans par la gauche. Alors comment réagissent les Suédois ? L'envoyé spécial d'Europe 1 à Stockholm, Alexandre Chauveau, leur a posé la question. Reportage.
Alors que la pluie s'abat sur Stockholm, Alfonso répare la devanture d'une boutique de vêtements. Cet ouvrier n'a pas voté pour le parti anti-immigration, mais il reconnaît les qualités de son leader, Jimmy Åkesson.
Il parle bien et c'est exactement ce que les Suédois veulent entendre. C'est pour ça que les gens votent pour lui.
Historiquement, la capitale suédoise vote pour les sociaux-démocrates, mais plus d'un électeur ici est conscient de l'échec du gouvernement sur les questions d'immigration et de sécurité. Lucas a 19 ans, il est cuisinier et n'a pas voté dimanche dernier, mais il comprend le vote d'une partie croissante des électeurs.
Ces dernières années, on a accueilli beaucoup d'immigrés. Certains font des études et se comportent très bien, mais d'autres traînent dans la rue ou tombent dans la criminalité. Et ça, les gens n'en peuvent plus.
Peter, lui, est retraité et s'avoue plutôt résigné face au score des populistes.
L'immigration est un problème, c'est sûr, mais ce n'est qu'un sujet parmi d'autres. Il y a encore l'environnement, la redistribution des richesses, par exemple. Mais bon, l'immigration, bien sûr, ça permet d'engranger plus de voix.
Et malgré leur score historiquement haut, les démocrates de Suède ne sont pas sûrs d'entrer au gouvernement. Cela fera l'objet d'âpres négociations qui pourraient durer plusieurs mois. Stockholm, Alexandre Chauveau, Europe 1.
Voilà, et ne manquez pas l'édito d'Emmanuel Ducrot tout à l'heure à 8h35, elle reviendra sur la Suède. En bref, la France doit-elle rapatrier les familles de djihadistes ? La CEDH va trancher aujourd'hui.
Oui, la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme doit se prononcer sur le cas de 2 femmes parties en Syrie, rejoindre Daesh. Leurs parents ont saisi la justice en France à plusieurs reprises, mais leurs recours ont tous été rejetés. Ultime tentative donc pour faire rentrer leurs filles et leurs petits-enfants qui se trouvent actuellement dans ces camps de prisonniers djihadistes du nord-est de la Syrie.
On termine avec le foot. Football et une nouvelle défaite pour l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions.
1-0 face à Francfort dans une ambiance tendue. Un supporter allemand a été blessé. 17 personnes interpellées en marge du match. 3 policiers également ont été blessés.
Et ce soir, c'est le Paris Saint-Germain qui se déplace en Israël face au Maccabi Haïfa.
Coup d'envoi 21h à suivre en intégralité sur Europe 1 dans Europe 1 Sport. Les Parisiens, leaders de la Ligue 1, invaincus cette saison, se déplacent sur le terrain du champion d'Israël. Match très attendu par les supporters du Maccabi. Cyril de la Morinerie, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux à Haïfa.
Oui, pour trouver les plus grands fans de ce club israélien, il faut se rendre à quelques kilomètres du centre-ville, à la Maccabi Haïfa Beach. Ici, au bord de la mer Méditerranée, une plage de sable fin, avec son poste de secours peint en vert et blanc, les couleurs du club, et des terrains de foot volé. Derrière un filet, une dizaine de jeunes frappent dans un ballon, tout en pensant déjà à l'événement de ce soir. Des fans qui viendront au stade soutenir leur équipe, mais aussi admirer les grandes stars du PSG.
Bien sûr, c'est un rêve de voir Messi ici à Haïfa, chez moi. Le Maccabi est désormais le meilleur club d'Israël et le champion en titre.
On a déjà battu le PSG, c'était il y a 23 ans.
Cette fois, les Parisiens seront favoris. Ils ont battu la Juventus de Turin la semaine dernière. Le Maccabi Haïfa, lui, s'est incliné sur le terrain du Benfica Lisbonne. Mais attention, au lendemain d'un long voyage, les joueurs du PSG devront être très méfiants, car ce match s'annonce bouillant. Les 35 000 supporters du Maccabi Haïfa ont la consigne de venir tout en vert au stade pour aider leur club à créer la surprise.
L'ambiance est déjà au rendez-vous, la musique est là. Cyril de la Morinerie est prêt pour nous faire vivre ce match en direct ce soir dans Europe 1 Sport. La Ligue des Champions, c'est sur Europe 1.
Il faisait du beach volley torse nu sur la plage hier, Cyril de la Morinerie. C'est un peu incroyable là-bas. Merci beaucoup, Fanny Marceau.
Merci.
8h11 sur Europe 1 dans un instant. Bertrand Piccard est l'invité de Sonia Mabrouk.